L'engagement scout se fait, c'est bien connu, même de ceux qui ne le sont pas, sous forme de deux choses que sont une loi et une promesse, c'est-à-dire un engagement, une sorte de vœu. Une loi et une promesse, voilà deux choses extrêmement contradictoires, je dirais, dans un milieu protestant et dans un contexte protestant dans lequel pourtant est né le scoutisme en Angleterre. C'est curieux parce que d'abord, les protestants n'aiment pas les lois et ils n'aiment pas la loi en général. La loi dans le sens religieux, j'entends. En effet, le message fondateur, central, que prêchent les protestants depuis 500 ans, c'est que justement, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et justement, ça a été de montrer qu'on pouvait avoir une religion qui ne soit pas une religion d'observance, avec des règles religieuses, avec des pratiques imposées, mais au contraire, une religion de liberté et de responsabilité. Comment alors, justement, quand nous voulons encadrer nos jeunes, les remettre sous la loi? Ça a été un vrai problème au début même du scoutisme, puisque Baden-Powell avait fait une loi pour les éclaireurs en 10 points, et quand il s'est agi d'importer cette loi en France, les responsables du scoutisme français en 1911 ont considéré qu'il était impensable de mettre une loi en 10 points qui finalement nous remettait sous une forme de décalogue. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis la loi de Baden-Powell en 12 points, justement pour éviter la confusion. Et puis les promesses et les vœux. Là aussi, c'est quelque chose qui est très contradictoire avec l'esprit protestant. Les réformateurs ont lutté contre ce qu'on appelle les vœux perpétuels, et justement les engagements des religieux et des religieuses qui s'engageaient un jour pour toute leur vie par une sorte de vœu qui les liait pour l'existence. En effet, les réformateurs ont pensé que, je crois à juste titre, que le seul sens d'un engagement était la responsabilité que l'on a par rapport aux autres. C'est le cas dans l'engagement du mariage, par exemple, ou dans l'engagement du baptême, puisque les parents s'engagent vis-à-vis des enfants, mais qu'il n'y avait pas d'engagement à vie, je dirais, quand cela ne concernait que soi, et que les conditions pouvaient faire en sorte que l'on réenvisage son propre engagement. Et comment donc, une fois encore, remettre nos enfants sous le joug, non seulement d'une loi, mais aussi d'un vœu et d'un engagement? Voilà quelque chose d'extrêmement curieux. Nous qui ne sommes plus sous la loi, comme le dit Paul, mais qui sommes sous la grâce. Vous n'imaginez pas les réflexions qui ont eu lieu dans les débuts du scoutisme et jusqu'à la guerre de 40, sur ces questions théologiques tout à fait fondamentales. Aujourd'hui, plus personne ne se pose ce genre de questions, et peut-être est-ce par faiblesse théologique, mais je voudrais les ressoulever justement. Alors on peut faire plusieurs réponses à cela. La première, c'est de dire tout simplement que pour faire partie d'un groupe donné, on est bien obligé d'accepter des règles. Et que par conséquent, la loi scout ne sont en fait que les règles qui permettent de vivre ensemble. De même que quelqu'un qui veut faire partie d'un club de football doit promettre d'une certaine façon de respecter les règles du jeu, du foot. Mais ces règles ne sont valables que quand il est dans le cadre de son jeu. Et par conséquent, on pourrait dire la loi scout et la promesse n'engagent le jeune que dans le cadre de son activité scout. Et donc, il ne s'agit pas ni d'une loi religieuse, ni d'une loi morale, mais simplement une règle du jeu valable pour un moment donné, dans un cadre donné. Cette réponse est évidemment une mauvaise réponse. Parce que le mouvement scout est un mouvement d'éducation et a toujours eu comme idée que la loi scout que l'on donne aux jeunes doit les diriger non seulement quand ils sont avec les autres, mais aussi dans toute leur vie, dans leur vie même en dehors des activités scout. Et ça a même été, une des forces du scoutisme, de donner aux enfants un idéal qui s'interpénètre jusque dans leur vie quotidienne, même quand ils ne sont pas dans les activités. C'est là une des bases pédagogiques du scoutisme. Et donc l'heureuse réponse que j'avais cru trouver ne tient pas. Alors l'autre solution, c'est de dire que c'est une pédagogie. Donc, bien sûr, nous sommes sous la grâce, mais les enfants ont besoin de lois pour grandir et pour se structurer. Par conséquent, certes, l'individu est libre, mais petit, il doit apprendre un certain nombre de choses. Et par conséquent, le scoutisme, c'est quelque chose pour enfants. La loi et la promesse sont des choses qui sont bonnes pour les enfants, mais il ne faudrait pas croire que cela pourrait être, quelque chose qui concernerait même les adultes, en quelque sorte. Donc c'est une chose pour enfants, et les adultes ou les grands qui prétendraient continuer à s'attacher à leur idéal scout seraient tout aussi ridicules que ces vieux retraités qui se retrouvent entre eux pour faire des dîners d'anciens en remettant leurs shorts et leurs foulards. Il y a un temps pour tout, et par conséquent, il y a un temps pour être enfant, un temps pour être adulte. La loi scout, c'est des choses pour enfants, c'est de l'ordre de la pédagogie, et non pas de la théologie pour adultes. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai parce que, d'abord, dans le scoutisme, il y a des aînés, et les aînés, ils ont quand même 16, 17, 18 ans, 20 ans, ou parfois plus quand ils sont chefs. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'ils sont sous une sorte de pédagogie infantile. Et pour eux, on considère encore dans le scoutisme que cet idéal est propre à les aider, à les orienter, à les diriger. Et d'autre part, j'ai rencontré moi-même un bon nombre d'adultes qui disent qu'ils continuent d'être structurés, d'être conduits par leur idéal scout et que, sans bien sûr jouer les boy scouts, entre guillemets, dont on se moque, mais que néanmoins il y a là quelque chose de plus profond, justement, qu'une attitude purement infantile qui continue de les orienter dans leur vie, dans leurs engagements, dans leur façon de servir et d'autres choses. Et donc je pense que l'idéal scout n'a pas la prétention à être seulement une pédagogie, mais il a une prétention à être beaucoup plus que cela. Et du coup, il faut essayer de jouer encore plus finement pour comprendre comment peuvent s'articuler cette loi avec la théologie de la grâce. Je pense que la meilleure réponse à donner à cela, c'est de dire que ce qui, je dirais, perturbe tout dans la réflexion sur la question, c'est le mot « loi ». Et que, en fait, le scoutisme ne donne pas une loi, mais plutôt un idéal. Et que la loi, ça n'est pas du tout la même chose que l'idéal. Parce qu'une loi, ça sert à juger, ça sert à condamner. Une loi, ça donne une direction imposée que l'on doit suivre pas à pas, alors qu'un idéal, c'est au contraire une direction globale vers laquelle on doit tenter de se diriger. C'est une orientation. L'idéal, c'est une utopie, je dirais, une visée lointaine vers laquelle on essaye de se diriger comme on peut, mais ce n'est en aucun cas quelque chose qui pourrait permettre de juger ce que l'on fait ou de juger ni soi ni les autres. Et ce qui me fait penser ça, c'est que je crois que le mot clé de la pédagogie scout, c'est quelque chose que l'on trouve dans la promesse, aussi bien chez les louveteaux que chez les éclaireurs, c'est le « tout mon possible ». En effet, dans la promesse, la promesse scout, l'éclaireur dit « je promets de faire tout mon possible pour écouter la parole de Dieu et obéir à la loi de l'éclaireur ». Et le louveteau dira « je promets de faire de mon mieux pour ». C'est la même chose, le « tout mon possible » ou le « de mon mieux ». Et ça change tout, parce que donc le jeune ne promet pas, on ne lui dit pas « je promets de servir », de n'avoir qu'une parole, d'être loyal, d'être fidèle, d'être juste, d'être bon. Il dit « je promets de faire tout ce que je peux pour ». Et donc cela veut dire qu'on n'est plus sous un jugement, mais sous une direction justement. Et on ne peut pas non plus juger l'autre, parce que personne ne peut juger du possible de l'autre. L'autre aussi a promis, mais il a promis de faire ce qu'il pouvait. Et ce qu'il peut, personne ne peut juger. Seul Dieu peut le savoir. Moi-même, je ne peux pas juger de ce qu'est le possible de l'autre. Et donc justement, on sort de la loi pour être dans un autre domaine, et je pense que c'est essentiel. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si, je dirais, une des paraboles du Christ qui est si souvent méditée par les scouts est la parabole des talents, où justement il est confié à chacun une certaine somme et qui n'est pas la même pour tout le monde, et chacun doit simplement essayer de faire ce qu'il peut à partir de ce qu'il a reçu. Et donc nous sommes bien là dans dans une vision, je dirais, relative de l'exigence qui fait que l'on sort d'une loi écrasante qui rend coupable, qui rend pécheur et qui permet de juger les autres pour être au contraire dans un idéal qui élève et qui fait grandir. Et je pense qu'en ce sens, le scoutisme par ce « tout mon possible » va tout à fait dans le sens de l'évangile et de la prédication du Christ, qui justement a été d'enlever l'idée d'une religion d'observance mue par les 613 commandements de l'Ancien Testament pour dire on n'est plus sous une loi, mais on est sous la grâce, mais pas la grâce de faire n'importe quoi, sous une grâce motivée par un idéal. L'idéal de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu pardonneras, tu te feras serviteur les uns des autres, tu ne maudiras pas mais tu béniras. Un idéal donc d'amour, de paix et de pardon. Et donc on est effectivement là aussi dans une sorte d'idéal. La question que l'on peut se poser c'est est-ce que l'idéal scout a quelque chose à voir avec l'idéal de l'évangile ? Et là j'hésite. Comme j'aime bien le scoutisme, je voudrais dire oui, bien sûr, c'est la même chose. Néanmoins, je dois dire qu'effectivement, il y a dans l'idéal scout, je crois, des tas de choses qui sont conformes à l'Évangile, simplement dit d'une façon un petit peu plus simple, plus abordable, dirais-je. Il y a néanmoins un point qui me semble, d'une façon curieuse, manquer fondamentalement dans l'idéal scout, c'est le pardon. Dans la loi scout et dans la promesse scout, il n'y a nulle part la notion de pardon et de grâce. Ça, c'est très étrange. Et je ne l'explique pas. Pourtant, je pense que l'idéal scout fonctionne bien. Alors, peut-être faut-il voir comment ça se passe. Je crois que l'idée de l'idéal scout, c'est de donner un idéal, mais qui soit un idéal applicable, enfin applicable, compréhensible, et qui puisse être compris et je dirais, avoir des conséquences immédiates dans la vie de tous les jours. Le problème de l'idéal de l'Évangile, c'est qu'il est trop lointain. On nous dit en effet « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, c'est un bel idéal et tout le monde est bien d'accord. Mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, cela ne m'aide même plus, tellement c'est lointain. Et je ne sais même plus ce que veut dire aimer mon prochain par rapport aux gens que je n'aime pas, par rapport à ceux qui me font du mal, par rapport à mon lointain pour lequel on me demande de faire une quête parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle dans un pays à l'autre bout de la planète, par rapport au SDF qui tend la main, et l'amour du prochain devient quelque chose de tellement compliqué que cela ne m'aide même plus. Quand même à la question du pardon, oui bien sûr je sais qu'il faut pardonner, mais dans le fond ça ne m'aide même plus non plus, puisque je n'y arrive pas, et que j'ai beau me forcer, ça devient pour moi quelque chose de pratiquement impossible. Quant aux autres commandements, le seul peut-être qui soit le plus concret dans l'Évangile d'idéal, c'est celui de service. Faites-vous serviteurs les uns des autres. Et justement, c'est le point qui a été repris le plus, je dirais, par le scoutisme, le fait d'être serviteur. Et je crois que là, le scoutisme a eu, je dirais, une certaine finesse en mettant justement à la base de toute la pédagogie scout la notion de service. On le retrouve partout, à tous les niveaux. On le retrouve dans la promesse de l'éclaireur. Je me promets de mettre au service des autres. On le retrouve même dans la loi de l'éclaireur, où on retrouve encore cette notion de service. On la retrouve dans la branche aînée, où l'on dit que les deux lettres RS, routier, scout, veulent dire aussi rendre service. On le retrouve également au niveau des louveteaux. On promet d'aider quelqu'un chaque jour pour les petits louveteaux. Et donc le service se retrouve à tous les niveaux dans le scoutisme. Et je crois que là, c'est sans doute un des grands piliers de l'engagement et de la pédagogie scout. Et là, le scoutisme n'a rien inventé. Le service est sans arrêt mis en avant par le Christ comme étant une chose essentielle. Vous serez serviteurs les uns des autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Où Jésus, dans le lavement des pieds, se met au service des autres, il dit « Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez de même ». et faites-vous pour que vous vous rendiez service les uns aux autres. Et dit-il, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Et donc le service, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est concret. Aimer son prochain, je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Mais rendre service, ça je sais ce que ça veut dire. Être serviteur, ça je sais ce que ça veut dire. Et l'idée de rendre service est peut-être justement quelque chose de concret, d'applicable, que l'on peut mettre, je dirais, en application à tout moment. Et puis pour ce qui est du reste, eh bien, je crois que, je vous l'ai dit, la question du pardon est peut-être un peu trop théorique, et finalement se trouve peut-être aussi dans l'idéal scout d'une autre manière. C'est que on trouve dans l'idéal scout, dans la loi scout, l'idée que l'éclaireur est l'ami de tout le monde et le frère de tous les autres éclaireurs. C'est dommage, je crois que le scoutisme actuel unioniste a abandonné cet article de loi qui me semble tout à fait essentiel pourtant. L'ami de tout le monde et le frère de tous les autres éclaireurs. Parce que être l'ami, c'est être celui qui aime, mais d'une façon concrète. Et son ami, on lui pardonne. Et à son frère aussi. Enfin, en tout cas, peut-être plus l'ami. Et donc, à son ami, on lui pardonne, on l'aime, on l'accueille, on le comprend et on le voit. Et on voit justement ainsi, je crois, ce qu'est cet idéal scout, qui est quelque chose que l'on voit comment appliquer. C'est concret, c'est à la portée de la main, c'est applicable quotidiennement. Et voir chacun comme un ami, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire. Le reste, aussi, c'est un idéal dans le scoutisme. Je dirais n'avoir qu'une parole, être loyal, être de bonne humeur et tout cela. Tout ça peut sembler peut-être un peu enfantin, mais néanmoins, ça peut aider, je crois, à vivre. Donc je crois que l'idée du scoutisme a été de rendre l'idéal de l'Évangile présent dans le quotidien et de permettre d'incarner cet Évangile désincarné. Et toute la méthode scout est faite pour ça, de finalement, je dirais, faire se rapprocher l'idéal évangélique un peu éthéré dans la vie de tous les jours. Alors je pense que c'est une chose qui n'est pas mauvaise et que bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot « loi » pose toujours un peu problème, mais néanmoins, on peut comprendre, je dirais, l'idée qu'il y ait une loi et qu'il y ait des exigences à condition de le comprendre dans ce que les théologiens de la Réforme appelaient le troisième usage de la loi. C'est que la loi existe, et donc vous savez peut-être que les théologiens du Moyen-Âge avaient dit qu'il y avait trois usages de la loi. L'un qui est l'usage civilis, c'est l'usage civil, la loi, il faut s'arrêter au feu rouge et ne pas dépasser 130 km/h sur autoroute. Une loi qui ne concerne pas trop les théologiens. Le deuxième, c'est l'usus theologicus, l'usage théologique, qui est la loi qui nous rappelle que nous sommes pécheurs et qui nous incite à demander pardon à Dieu. Là, ce n'est pas non plus, je crois, le sens de cela. Et le troisième, qui est l'usus normativus, l'usage normatif, qui est l'idée que, même sous la grâce, nous avons besoin d'une loi pour savoir ce que nous ferons de cette grâce. Autrement dit, c'est la signification de ce que nous mettons à la fin du culte et qui est appelé l'exhortation. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que tout à coup nous sommes laissés à nous-mêmes en disant « faites ce que vous voulez, ça n'a plus aucune importance puisque vous êtes pardonnés ». Même sous la grâce, il y a quand même une exigence qui nous est donnée, exigence qui n'est pas là pour nous juger, mais pour nous aider à avancer et nous envoyer en avant. Et je crois que la loi scout fonctionne justement dans ce sens-là et doit être compris comme cela, comme un usus normativus, comme une exhortation et comme quelque chose qui nous pousse en avant. Et peut-être qu'il est bon pour nous, même pour ceux qui ne sont pas scouts, de réfléchir à cela. Parce que peut-être prêchons-nous trop facilement dans nos temples la grâce et le pardon. Et à force de dire « tout le monde est pardonné, Dieu aime tout le monde, vous irez tous au paradis », où est l'exigence ? C'est, je crois, un problème. Et quand par hasard nous voulons reparler d'exigences dans nos temples, alors nous redevenons culpabilisateurs. Dieu veut que vous fassiez ceci. Et quand même, le salut, c'est le bien qui reste de nous, c'est l'amour que nous avons donné. Et donc, nous avons du mal dans nos temples à présenter une exigence sans être culpabilisateur ou sans faire peur, entre guillemets. Et je pense que justement, la loi scout est une réponse à cela. Une réponse à, je dirais, l'homme qui justement se sait sous la grâce et dit « Mais alors Seigneur, que ferai-je à ton service ?» Vous savez que pour les confirmations, les jeunes choisissent un verset biblique ou on leur propose un verset biblique. Et une fois, un jeune avait choisi justement cela comme verset biblique. Ce que dit Paul à Jésus quand il lui apparaît, « Seigneur, que ferai-je ? » Et j'ai trouvé ça beau parce que la plupart des jeunes choisissent des versets bienfaisants, « L'Éternel est ma lumière et mon salut » ou « Dieu est mon berger », etc. Et lui, il avait dit ça, « Seigneur, que ferai-je ? » Et ça, c'est la question que devrait se poser le chrétien, justement. « J'ai la grâce, d'accord, mais ensuite, que ferai-je ? » Et là, il faut qu'il y ait une sorte de proposition, en quelque sorte. Eh bien, le scoutisme propose un idéal, une direction. Et je crois qu'en ce sens, il est très complémentaire de ce que nous prêchons le dimanche. Parce qu'il propose aux jeunes, justement, une direction. Et de dire, bien écoute, tu peux faire ça. Tu peux aller dans cette direction. Tu peux aller dans un certain sens qui est décrit par la loi scout. Et on peut lui donner une pédagogie qui pourra l'aider, lui, à se construire et qui, je crois, peut même être un guide moral pour les grands et peut même être très positif pour les adultes. Et il a l'avantage d'être clair, de donner des directions applicables dans la vie de tous les jours. Et puis l'autre point, encore, c'est, je crois, qui est tout à fait essentiel dans la loi scout, c'est l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre. Parce que je crois que tout dans la loi scout vise justement à décentrer le jeune par rapport à son propre égoïsme. On le trouve chez les Louveteaux, malheureusement ça a été supprimé ça encore, la pédagogie moderne n'a pas que du bon, mais dans l'ancienne promesse Louveteaux, on disait le petit loup ne s'écoute pas, mais il écoute les vieux loups. Et on a la même chose aussi dans la loi de l'éclaireur, on dit je suis là pour me mettre au service des autres. Et donc c'est l'ouverture vers les autres et le décentrement par rapport à soi. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose de très fondateur dans la théologie chrétienne et qui est là proposé d'une façon concrète. C'est d'échapper à ce que les théologiens appellent le péché originel. Le péché originel, c'est de se mettre au centre de tout et de dire c'est en fonction de moi que je décide, je suis là pour moi, pour me faire plaisir, pour profiter de la vie, pour me servir, pour jouir de l'existence, et c'est ce qui me convient que je déclare bon. Ça, c'est le péché originel. Et justement, tout dans la loi scout vise à aider le jeune, dès son plus tendre âge, à sortir du péché originel, et de dire, tu n'es pas là pour t'écouter toi, mais pour écouter ceux qui savent, ou ceux qui ont l'expérience, pour un enfant de 8 ans, les vieux loups. Et pour l'éclaireur, de lui dire, tu n'es pas là pour te servir toi, mais pour servir les autres. Tu n'es pas là pour t'écouter toi, mais pour écouter la parole de Dieu. Donc là, l'altérité ultime de quelque chose à l'écoute duquel je me mets et qui me fait sortir de moi-même. Je pense qu'il y a là quelque chose, une intuition théologique extrêmement juste, qui est des plus fondamentales, je dirais. Et là encore, le scoutisme a l'avantage de remettre, je dirais, dans le quotidien des enfants, quelque chose que nous connaissons un peu théoriquement, mais que finalement, dont finalement nous ne connaissons pas les conséquences pour notre vie courante. Oui, nous savons que le péché originel, c'est très mal et qu'il faut éviter. Mais concrètement, pour vous, là, aujourd'hui, tout de suite, ça veut dire quoi? Eh bien, pour le scout, il le sait. C'est un louveteau ne s'écoute pas, mais il écoute les vieux loups. C'est je suis là pas pour me servir moi, mais pour servir les autres. Et je suis là pour écouter la parole de Dieu. Et puis enfin, une dernière chose que je trouve remarquable aussi dans l'intuition scout, encore que je ne pense pas que Baden-Powell ait réfléchi à tout cela en créant sa méthode, mais ça reste quelque chose d'assez extraordinaire, c'est non plus la loi ni la promesse, pour finir, mais la devise. Vous connaissez forcément la devise scout, c'est « Sois prêt ». Le « sois prêt » français n'est qu'une pâle traduction du « be prepared » anglais, qui me semble plus intéressant, parce que là aussi nous avons, je dirais, l'inscription dans le concret d'un commandement fondamental du Christ dont nous ne savons jamais que faire, c'est le « veiller et prier ». Mais souvent le Christ dit « veiller ». Veiller, veiller, veiller. On ne comprend pas trop toutes ces paraboles du voleur qui vient la nuit et il faut être prêt à l'accueillir, ou des vierges sages et des vierges folles. Là encore, nous sommes dans une sorte de théorie que nous sommes incapables d'appliquer. Et je crois que le « sois prêt » du scoutisme nous donne justement, là encore, une application concrète, quotidienne et pratique de ce « veiller ». Parce qu'il y a deux choses essentielles dans ce « sois prêt ». La première, c'est la disponibilité. L'ouverture, être prêt à accueillir toute chose, même l'improbable, même l'imprévisible. Se préparer à être prêt, je dirais. Disponibilité par rapport aux autres, c'est l'ouverture, c'est l'accueil de l'autre. Être prêt à accueillir même l'étrangeté ou le nouveau. Être prêt à tout, même à ce que je n'imaginais pas. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et il y a effectivement... Il n'y a pas, je crois, des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. La chance, c'est d'être capable de saisir les choses qui se présentent quand elles se présentent. Et ça, c'est ça, être prêt. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très, très juste. Et d'autre part, je vous disais, j'aime la dimension plus active du « be prepared » anglais, parce que ce n'est pas « sois prêt », mais c'est « sois préparé », c'est-à-dire « prépare-toi ». Et ce n'est donc plus simplement une attitude, mais une démarche, agir pour être prêt. Et alors, pour être prêt à quoi? Eh bien, être prêt à tout, apprendre à s'ouvrir à l'autre, se préparer à vivre, se préparer à mourir aussi, se préparer à avoir un métier ou se préparer à être au chômage, se préparer à avoir des enfants ou se préparer à les perdre. Et donc, je crois que toute la vie du chrétien consiste à se préparer. Et il y a là, je pense, finalement une sorte de vérité évangélique très profonde que le scoutisme a vraiment mise en valeur et qui devrait, je crois, même pour un adulte, vous voyez, on n'est plus dans les choses pour enfants seulement là, même pour un adulte, il y aurait là une sorte de devise, de direction qui devrait être la nôtre en toute chose et pour tout événement, pour toute circonstance, se dire que nous devons devenir prêts, nous préparer à être prêts, prêts à tout, parce que l'Ecclésiaste le dit bien, il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre, eh bien je dois être prêt à la paix et prêt à la guerre. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, je dois être prêt à vivre et prêt à mourir. Il y a un temps pour se rapprocher, un temps pour s'éloigner, un temps pour aimer, un temps pour haïr ou pour s'éloigner, un temps pour construire, un temps pour démolir, je dois être prêt. Et je pense qu'effectivement, toutes ces paraboles de l'Évangile nous montrent que celui qui entrera dans le royaume de Dieu, c'est bien celui qui est prêt. Pas simplement celui qui veillait, mais celui qui s'est préparé, comme les vierges sages avaient préparé leur huile pour accueillir l'époux. Et donc nous avons là, et je crois dans cet engagement scout, un idéal évangélique, je dirais, redigéré pour la vie quotidienne. Et il y a là quelque chose d'extrêmement positif, je crois, pour les enfants. Bien sûr, il n'y a aucune prétention à ce que cette loi scout remplace la loi de Moïse, ni que cela devienne une religion. Le scoutisme, ce n'est pas une religion, mais c'est du christianisme concret et applicable dans la vie de tous les jours. Et je pense ainsi que même ceux qui ne vont pas camper dans les bois et qui n'allument pas de feu, eh bien, ont à apprendre de cet idéal scout pour essayer, si ce n'est de l'appliquer mot à mot, au moins pour trouver dans leur vie quotidienne qu'est-ce que finalement l'Évangile dans son idéal me donne pour moi comme ligne de conduite. Voilà peut-être un bon exercice que chacun devrait faire. L'idéal de l'Évangile, je le connais, aimer son prochain, pardonner, servir, aimer, donner la paix. Mais pour moi aujourd'hui, concrètement, là tout de suite, ça se concrétise comment? Ça, c'est une vraie question. Et qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? Voilà la vraie question que l'on doit se poser. Pour les enfants, on leur propose l'idéal scout, mais que chacun se demande justement comment il peut vivre concrètement cet idéal, et heureux celui qui, tous les jours, peut penser à cet idéal chrétien et se dire, eh bien moi, d'être chrétien aujourd'hui, ça change ma vie, parce que je vais agir de telle manière avec les autres et dans le monde. Je pense qu'en ce sens, ceux qui ont été scouts et qui l'ont vécu vraiment comme on devrait le vivre, pas simplement comme le fait de s'éclater avec des copains dans les bois, mais avec un vrai idéal scout, eh bien, ont quelque chose que beaucoup n'ont pas, et même des adultes n'ont pas. Et donc, il ne faut pas traiter ça, je dirais, du revers de la main comme une pédagogie infantile, mais comme une vraie question qui est posée à chacun. Et dans tous les cas, je crois que l'on soit scout ou non, on peut faire soi, sienne, cette vraie devise, soit prêt. Soyez prêts, frères et sœurs, préparez-vous, et en toute chose, comme dit le Christ, veillez, car le Fils de l'homme vient, il est là, et heureux celui qui sait l'accueillir concrètement dans sa vie. Amen. Thank you.